Bonjour, chers amis. Alors, Jérémia a pratiquement tout dit concernant l'association baptiste. Ce que je rajouterais, c'est au niveau régional. En fait, l'association baptiste est constituée de plusieurs régions. Et pour nous, en région parisienne, nous avons un regroupement qu'on appelle la BRIF, l'association des baptistes en région Île-de-France. Et votre église fait partie de cette association qui est située en région parisienne. Et à l'intérieur de ce réseau, de cette association, en fait, il y a des réseaux. Par exemple, moi, l'église dans laquelle je suis pasteur fait partie du réseau A4 Ouest. Alors, je ne sais pas, la vôtre, elle fait partie de quel réseau ? Marne-la-Vallée, voilà. Voilà. Donc, nous nous retrouvons en principe une fois par mois en grand réseau et une autre fois en petit réseau, donc les petits groupes d'église. Mais en tout cas, c'est une joie pour moi d'être devant vous ce matin. Je connais certains parmi vous, notamment les responsables de l'église, parce qu'on se voit assez souvent lors des conseils. Mais là, c'est la première fois que je viens vivre ce culte et de voir l'église dans son ensemble comme ceci ne peut qu'être qu'une joie pour moi. Alors, rapidement, je m'appelle donc Guy Aristide Passy. Aristide Passy, c'est Aristide, c'est mon prénom usuel, Guy, c'est mon prénom officiel, et Passy, c'est mon nom de famille. Alors, j'aime bien ces deux prénoms, ces deux noms d'abord, Aristide et Passy. Pourquoi Aristide ? Aristide veut dire le fils du meilleur en grec. Alors, je ne sais pas si mes parents connaissaient le grec. Mais en tout cas, le fils du meilleur, c'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu, en fait. Bon. Et Passy, je suis aussi congolais, et dans les langues du Congo, Passy veut dire souffrance. Donc, vous voyez, avec mon prénom Aristide et mon nom Passy, je peux facilement évangéliser. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ça. Alors, merci à vous, merci à votre pasteur de m'avoir invité pour vous partager ce que j'avais à cœur. J'avais à cœur de vous partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais il y avait aussi autre chose et j'avais laissé votre pasteur faire le choix. Et il a choisi que je vous partage ce que je dirai tout à l'heure. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire ce tableau, ce PowerPoint. Si certains prétendent qu'il faille imposer les mains coûte que coûte, je ne suis pas contre l'imposition des mains. Mais sachez que l'imposition des mains n'est plus à la mode dans certains milieux. C'est l'imposition des pieds qui est à la mode. Mais attention, il ne faut pas qu'ils imposent les pieds en même temps. D'ailleurs, c'est l'un à la suite de l'autre parce qu'ils peuvent tomber. Et lorsqu'ils n'imposent pas les pieds de la sorte, ils marchent carrément sur le malade. Voilà. Donc, tout cela pour nous dire de faire attention par rapport à tout ce qui est dit sur, soi-disant, la parole de Dieu. Et vous voyez aussi à côté des pasteurs qui sont adulés, comme si... le but d'un pasteur, c'est d'attirer des foules à lui et non de montrer la voie pour que les gens suivent le Seigneur. Prêcher la Bible en 2017. Alors, notre jeune sœur aussi veut parler. Je vais laisser... prêcher la Bible en 2017. Alors, dès la naissance de l'Église, il faut reconnaître qu'il y a une belle tradition, c'est celle de la prédication au cœur de la vie de l'Église. Et cela, déjà, dès la Pentecôte. Et j'ose espérer que cette belle tradition se poursuit avec nous aujourd'hui, au XXIe siècle, la prédication. Et d'ailleurs, si l'on en croit les récits de Néhémie, cette belle tradition ne remonte pas au commencement de l'Église, mais remonte déjà à l'époque des juges. Néhémie chapitre 8, verset 1 nous dit « Les Lévites lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. » L'Église aujourd'hui est toujours inscrite dans cette belle tradition de la prédication. Nous ne pouvons contester cela, c'est un fait. Cependant, la question que nous pouvons nous poser est de savoir si cette tradition de la prédication est radicalement biblique. Sommes-nous inscrits, alors je vais peut-être employer une expression qu'on entend dans certains milieux, notamment dans les écoles théologiques, mais est-ce que sommes-nous inscrits dans le sola scriptura? Seule l'Écriture, cher aux réformateurs, nous sommes dans l'année du 500e anniversaire de l'affichage des 95 thèses de Luther. Est-ce que notre prédication est inscrite dans, oui, seule l'Écriture? Si nous revenons dans les premiers pas de l'Église, nous nous rendrons compte que les premiers prédicateurs, à l'exemple de Pierre, avaient une prédication radicalement centrée sur la Bible, radicalement centrée sur le Christ. De ce fait, les premiers chrétiens à Jérusalem écoutaient une prédication rigoureusement centrée sur la Bible. Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Prêchons-nous toujours la Bible? Écoutons-nous toujours la Bible? Ce n'est pas parce qu'une prédication s'appuie sur la Bible qu'elle est radicalement biblique. La preuve, c'est que, je n'ai rien contre, mais les témoins de Jéhovah invoquent la Bible ou une partie de la Bible. Mais ce n'est pas pour autant que leur prédication est centré sur la Bible. Mais ici, il n'y a pas que les sectes qui sont en cause. Certaines églises qui se réclament du mouvement évangélique avec un accent porté sur l'évangile de la prospérité ne sont pas mieux. Et puis nous-mêmes, soyons humbles, car nous-mêmes, dans nos églises évangéliques dites classiques, nous ne sommes pas à l'abri d'un faux enseignement. Hélas, le fléau du faux enseignement ne date pas d'aujourd'hui. Les croyants du premier siècle ont dû faire face à cet évangile qui ne l'était pas. C'est par exemple l'expérience que font les chrétiens à l'église de la Galatie. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1. Nous lirons les 10 premiers versets, mais j'insisterai davantage sur les versets 6, sur les versets 6 à 10. Donc, Galates, chapitre 1, les versets 1 à 10. Galates, chapitre 1, les versets 1 à 10, et je lis dans la version du semeur. Alors, excusez-moi, je n'ai plus de bons yeux. Ça trahit ma vieillesse, mais bon, ça fait partie de la vie aussi, et je dis amen au Seigneur. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Avec tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, dans d'autres versions il est dit, qu'il soit anathème. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je reprends le verset 9. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. J'espère qu'à la fin de cette prédication, vous n'allez pas me maudire. Oui, l'étonnement de Paul. On se rappellera que Paul et Barnabas, c'est lors de leur premier voyage dans cette région de la Galatie, hein, que l'on peut situer actuellement en Turquie, qu'ils vont évangéliser cette région lors de leur premier voyage. Et ce voyage dans cette région sera couronné de succès. Pourquoi ? Parce que ben, y aura des personnes qui vont se convertir. Et c'est parmi ces nouveaux convertis, on comptera des juifs et des non-juifs. Ce sont eux qui vont plus tard recevoir cette lettre dont nous venons de lire l'extrait. Entre-temps, l'apôtre Paul n'est plus avec eux. Il n'est plus en Galatie. Et ces chrétiens, ce n'est pas qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, mais des prédicateurs, des faux prédicateurs, des faux enseignants se sont infiltrés dans cette église. Et malgré l'enseignement de Paul et les miracles que Dieu avait opérés par Paul, eh ben, ces croyants vont s'écarter de l'évangile du Christ. Ils vont abandonner le vrai message pour suivre un autre message. À travers la lettre que l'apôtre Paul leur adresse, il déplore le fait que, de manière rapide, certains Galates se sont éloignés de Dieu en plaçant leur confiance non pas dans l'évangile du Christ, mais dans un autre. Cet autre évangile est truffé d'erreurs. L'apôtre Paul voit là une menace pour ses croyants. D'après le message qui est enseigné par ce mauvais évangile, il est dit que les non-juifs ne peuvent être sauvés que s'ils suivent la loi et coutumes juives telles que la circoncision. Par ailleurs, cet évangile prétend qu'il faille obéir à la loi pour d'une part être sauvé et voir ses péchés pardonnés, ses péchés effacés. En réalité, un tel évangile n'est juste pas supportable. Cet évangile méprise la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est comme si on insultait Dieu, on lui disait, mais au fond, ça ne servait à rien que tu envoies ton Fils, parce que de nous-mêmes, nous pouvons nous sauver. L'apôtre veut montrer aux Galates qu'il n'y a pas une autre œuvre que l'œuvre que notre Seigneur a faite à la croix une fois pour toutes. Aucune autre œuvre en plus de ce qu'a fait Jésus. Paul est surpris que les Galates renoncent à la grâce au profit de la loi. Après avoir manifesté son étonnement suite à ce revirement spectaculaire des Galates, Paul en vient maintenant à la mise en garde. Oui, Paul met en garde ses croyants. À bien y voir, il n'y a pas un autre évangile, dit Paul. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui est annoncé par les apôtres, établi par Jésus-Christ lui-même et par Dieu le Père. Paul met en garde ses chrétiens contre la séduction des faux enseignants, la séduction des mauvais prédicateurs. Celui qui n'a pas le label d'apôtre authentifié par le Père ne peut être un véritable apôtre. Il a plu à notre Dieu de transmettre sa révélation entière et plénière, unique plutôt et plénière, à ses apôtres, afin que ceux-ci transmettent cette révélation-là à l'humanité en général et à l'Église du Christ en particulier. Il n'y aura plus d'autres apôtres au sens historique. Les apôtres au sens historique, c'est ceux que nous rencontrons dans la Bible. Et ils avaient un rôle dans la révélation. Il n'y en aura plus. Si quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a dit une autre révélation que ce qui est dit dans la parole de Dieu, ne suivez pas cette personne, ne croyez pas cette personne. Il n'y aura plus d'autres apôtres au sens historique. Alors aujourd'hui, quelqu'un peut se donner le titre d'apôtre, mais s'il le veut, on peut le lui donner, on peut le lui accorder. Mais il ne sera pas un apôtre au même titre que Paul, Pierre et les autres. Il n'y aura plus d'apôtres historiques. Ces apôtres historiques sont le fondement de l'Église. C'est si nous, en tant que chrétiens, nous croyons à l'enseignement de ces apôtres, c'est en cela que nous serons unis au Seigneur Jésus. Mais si nous ne nous attachons pas à cet enseignement, il nous sera difficile d'être unis à Christ. Il se trouve que Paul est un apôtre établi par Dieu. Par conséquent, il est légitime que son enseignement soit reçu comme parole de Dieu. Mais tous les autres apôtres, aujourd'hui, tout ce qu'ils disent n'est pas la parole de Dieu. La seule parole de Dieu, elle est dans cette Bible. Quand bien même un pasteur, moi par exemple, je vous parle, il est de votre devoir de regarder dans la Bible. Est-ce que ce que Aristide nous dit est biblique? Comme faisaient les Juifs de Bérée. Ils vérifiaient. Est-ce que ce que les apôtres leur disaient faisait partie de la parole de Dieu? Oui, l'apôtre Paul montre ici quelle est l'origine de son apostolat. Il ne l'a pas volé. Ce n'est pas un homme qui a fait de lui un apôtre, mais c'est Dieu lui-même qui a fait de lui un apôtre, contrairement à ces faux enseignants qui œuvraient dans cette région de Galatie. Eux n'avaient pas reçu le mandat de Dieu. Certains parmi les Galates prêchaient un évangile qui n'était pas radicalement biblique. Ceux qui induisaient les autres en erreur sont des judaïsants qui estimaient qu'un non-juif ne pouvait pas être sauvé s'il ne plaçait sa foi qu'en Jésus-Christ. Mais il lui fallait aussi observer des pratiques de l'Ancien Testament, telles que la circoncision et les règles alimentaires. Ces gens, certainement, avaient rencontré un certain succès au milieu des croyants. Ces fauteurs de troubles tordaient la parole de Dieu en faisant ainsi des dégâts parmi les croyants de l'Église. Le résultat de ce mauvais enseignement est que les croyants de la Galatie étaient déstabilisés dans leur foi. Ils étaient déstabilisés dans leur foi. Ils ne savaient plus où était réellement la vérité. Après cette mise en garde, l'apôtre Paul en vient à l'avertissement. Oui, l'apôtre Paul avertit cette église. Imaginez que quelqu'un verse dans une réserve d'eau un poison mortel. Quelles en seront les conséquences pour les habitants de cette ville qui est alimentée par cette réserve d'eau? Quelles en seront les conséquences, d'après vous? Comment? Oui, empoisonné. Ce que Paul déplore ici n'est pas différent de ce poison, sauf qu'ici, le poison, il est à un autre niveau, au niveau spirituel. Un poison par un mauvais évangile. Si un prédicateur prêche un autre message que celui révélé par les apôtres de Jésus, son message et lui-même doivent être rejetés. Paul donne un sévère avertissement à tous ceux qui prêchent. Ce texte me met en garde. Ce texte m'avertit de prendre au sérieux la parole de Dieu, de prendre au sérieux ce que je dis au peuple de Dieu. On peut penser à tort que Paul voit dans les autres prédicateurs des concurrents. En réalité, il n'en est rien. C'est pas ça. Ce qui le met hors de lui, ce n'est pas que d'autres que lui puissent prêcher. Ce qu'il insupporte, c'est de savoir que certains qui se disent prédicateurs pervertissent l'évangile de Jésus. Paul accepterait à la limite que ces faux enseignants disent la vérité, même pour de mauvaises motivations. Mais à la limite qu'ils disent la vérité, même si c'est pour de mauvaises motivations. On comprend alors que Paul tient des propos durs lorsqu'il en appelle à la malédiction de tous ceux qui iraient à l'encontre de l'évangile de Jésus-Christ, de tous ceux qui détourneraient le peuple de Dieu de l'évangile de Jésus. Il va même jusqu'à affirmer que cette malédiction retombe non seulement sur les apôtres établis par Dieu, mais aussi sur les anges qui viennent du ciel. Et lorsque l'apôtre Paul le dit, il ne s'exclut pas, puisque nous pouvons entendre que la malédiction retombe sur moi-même si d'aventure je venais à m'écarter de cette bonne nouvelle. Tout porte à croire que cet avertissement de Paul montre que pour lui, ce qui fait qu'une église soit une église apostolique, ce n'est pas tant que cette église soit fidèle à une personne, fût-elle un apôtre. Mais ce qui fait d'une église apostolique, c'est que cette église soit fidèle à l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, je ne voudrais pas critiquer nos amis catholiques, mais nos amis catholiques disent qu'eux sont dans une église apostolique. Nous aussi, nous disons que nous sommes dans une église apostolique. Mais il y a une différence. C'est qu'eux sont église apostolique parce que pour eux, pour qu'il y ait église, il faut qu'il y ait un pape, parce que le pape est le successeur des apôtres. C'est en cela qu'ils sont une église apostolique. Donc, toutefois que le pape par son magistère, dit quelque chose, eh bien, cette parole du pape est élevée au même titre que la parole de Dieu, parce qu'il est le successeur des apôtres. Mais nous n'avons pas la même grille de lecture. Pour nous, ce qui fait qu'une église soit apostolique, c'est la fidélité à l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul ne blague pas avec le sérieux de l'évangile. Il n'hésite pas à reprendre son aîné dans la foi. Vous connaissez cet aîné dans la foi ? Il n'hésite pas de reprendre Pierre lorsque celui-ci tombe dans l'hypocrisie. Nous pouvons lire en Galates 2, les versets 11 à 14. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» L'apôtre Paul n'a pas hésité à reprendre, à recadrer son aîné dans la foi, Pierre. Parce qu'il avait vu que Pierre s'écartait de la bonne nouvelle. Pierre s'écartait de cet évangile de Jésus-Christ. L'évangile n'a pas pour vocation à être instrumentalisé. Les faux enseignants de la Galatie poursuivaient là un but malsain, celui d'instrumentaliser l'évangile. Leur objectif était de plaire aux hommes et non à Dieu. Leur démarche consistait à se faire des disciples pour leur propre compte et non pour celui de Christ. Ces gens sont à la poursuite d'une gloire éphémère. En revanche, Paul, lui, refuse de livrer une prédication qui aurait pour objectif de plaire aux hommes. Malheureusement, l'apôtre Pierre s'y est laissé prendre jusqu'à ce que Paul lui fasse le reproche, comme nous l'avons lu. Comme quoi personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un malheureux glissement. Tous, autant que nous sommes, nous devons être vigilants, faire attention. Paul est conscient que la finalité de son message ne peut être de séduire son auditoire ou les lecteurs. Chercher à séduire les autres par sa prédication nous expose à nous écarter de la vocation que le Seigneur nous a confiée, celle de servir le Christ. Être au service du Christ suppose que nous devons être dans la vérité. Et parfois la vérité fait mal. La parole de Dieu, elle est faite pour dire bien lorsqu'il faut dire bien, mal lorsqu'il faut dire mal. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ce que l'apôtre Paul dit ici aux chrétiens de la Galatie? Alors nous ne sommes pas dans la même configuration que ces chrétiens-là. Nous n'avons pas les mêmes défis. Mais malgré tout, nous avons nos défis à nous aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons prendre ce message pour chacun, pour nous-mêmes aujourd'hui? Si autrefois, les chrétiens de Galates ont été confrontés à de mauvais messages de la part de ces faux prédicateurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri. Plus encore qu'hier, j'ai personnellement l'impression que le danger de nos jours est plus accru. Pourquoi est-ce que ce danger est plus accru? Eh bien, il y a la diversité d'informations. Aujourd'hui, les églises sont multiples. Il y a plusieurs églises. Aujourd'hui, il y a une diversité, une massivité de la littérature chrétienne. aujourd'hui avec Internet, les médias digitaux, plusieurs sources. Par ailleurs, si autrefois les gens ne savaient pas lire, donc étaient moins exposés à la mauvaise littérature, aujourd'hui, avec l'alphabétisation massive, alors je ne suis pas contre, heureusement d'ailleurs, qu'il y a cette alphabétisation massive, mais avec cette alphabétisation démocratisée, eh ben, le danger, c'est que nous soyons exposés à des faux enseignants. À des faux enseignements. Alors vous allez me dire, mais oui, mais même si les gens ne savent pas lire, ils vont entendre, ils ne pourront pas vérifier eux-mêmes. Certes, oui, mais en même temps, oui, aujourd'hui, nous sommes plus exposés à ces faux enseignements. Apprenons à faire le tri dans ce que nous pouvons recevoir comme information. Le temps nous manquerait de lister tous les enseignements qui peuvent être dangereux pour notre âme. Mais en se concentrant sur le nœud du problème que pose Paul dans cette lettre, on est encouragé à ne pas nous laisser séduire, ne pas nous laisser abuser par une prédication honteuse. Une prédication qui prétendrait que pour être sauvé, il ne suffit pas de croire en Christ, mais il faudrait aussi croire en d'autres choses. Un tel message est contre le vrai évangile. N'écoutons pas ceux qui relativisent l'évangile, ceux qui disent qu'au nom de la tolérance, tout le monde ira au paradis. Toutes les religions ne se valent pas. Faisons attention. Soyons vigilants. Faisons attention à ce que nous écoutons, à qui nous écoutons. De nos jours, de faux évangiles, le faux évangile est encore propagé. La question est de savoir comment faire la différence entre le bon et le mauvais évangile. Retenez que plus nous allons nous donner les moyens de lire, de méditer, d'étudier et de mettre en pratique la parole de Dieu, plus nous serons armés pour faire face à ce mauvais évangile. La différence entre un gourou et un bon prédicateur, enfin, si bon prédicateur il y a, mais la différence entre les deux, c'est que le premier cherche à se faire des disciples, alors que le second cherche à faire des disciples pour et par le Christ. Là où le gourou empêche le chrétien de voir le Seigneur Jésus, le bon prédicateur lui cherche à donner des clés utiles aux chrétiens pour que celui-ci continue de suivre sa voie, de s'enraciner en Jésus-Christ, de s'épanouir en Jésus-Christ. Il n'est pas mauvais de dénoncer, d'indexer les faux prédicateurs tels que je l'ai fait à travers ce PowerPoint. Cependant, il me semble que nous devons regardez la poutre qui est aussi dans notre propre œil. Chacun individuellement peut être un danger pour lui-même. Chacun peut s'avérer un mauvais prédicateur pour lui-même. Combien de fois n'ai-je pas perçu chez l'un ou l'autre chrétien une confiance basée non pas sur le Christ, mais sur un évangile qui n'était pas du Seigneur, sur un évangile toxique. Au lieu d'écouter le Seigneur, certains chrétiens à tort prétendent écouter un soi-disant prophète qui va leur prédire l'avenir. Sans en être conscient, de plus en plus de chrétiens tombent dans une sorte de superstition, dans une sorte de magie, dans une sorte de fétichisme, bien qu'en étant dans les choses de Dieu. Bien qu'en étant dans les choses de Dieu. Mais ils tombent facilement dans le fétichisme. Et en vous disant, je me rappelle lorsque je suis venu nouvellement au Seigneur, il y a des années de cela, j'avais une portion de la Bible Vous savez, les Bibles distribuées généralement par les Gédéons. Et je me promenais avec cette Bible, cette portion de la Bible, je la mettais toujours dans ma poche. Pourquoi ? Parce que je me disais qu'elle me protégerait. Vous voyez, et pourtant c'est la Bible. Le contenu est là pour notre bien. Mais sans le savoir, j'avais transformé ce livre comme un gris-gris, comme un fétiche. Et pourtant, je croyais au Seigneur. Mais j'ai glissé vers un fétichisme sans le savoir. J'ai glissé vers un fétichisme sans le savoir. Et glisser vers cela n'est plus de l'évangile. Parce qu'on a cessé de mettre notre confiance en Jésus seul, comme nous l'avons chanté, mais nous plaçons notre confiance dans un livre. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de placer votre foi dans un iPhone, au motif que l'iPhone contient la parole de Dieu? C'est pareil, mes amis. C'est pareil. Oui, nous pouvons plonger dans ce fétichisme, dans cette magie, dans notre piété. Au lieu de placer leur confiance en Christ, certains chrétiens puisent leur assurance dans leur prière ou dans la prière d'un autre. Combien de fois n'ai-je pas entendu des personnes me dire « Aristide, si tu ne pries pas pour moi !» Je dis « Mais je ne suis rien, je ne suis pas un faiseur de miracles !» Non, mes amis, la confiance est en Jésus seul et c'est le Seigneur qui agit. Placer sa foi dans sa propre prière, c'est du fétichisme, c'est de la magie, c'est de l'idolâtrie. Placer sa confiance dans la prière d'un autre, c'est de l'idolâtrie. Alors, je ne dis pas que nous ne devons pas prier. Je ne dis pas que nous ne devons pas demander à un autre d'intercéder pour nous. Mais notre confiance ne doit jamais se baser sur la prière. La prière n'est qu'un moyen pour nous de communiquer avec le Seigneur. Mais la foi, c'est en Jésus-Christ seul. D'autres placent leur confiance dans la Sainte Cène. Je me souviens encore dans mes débuts, lorsque c'était le moment de la Sainte Cène, je me disais, Seigneur, c'est le moment. Je sais que tu es là. Et là, je me disais, tout ce que je vais demander au Seigneur, il va me l'accorder parce que c'est le moment de la Sainte Cène. Sans le savoir, mes amis, j'étais déjà dans l'idolâtrie, dans la superstition. Ce n'est pas ça la foi de l'Évangile. La foi de l'Évangile, c'est en Jésus-Christ seul. D'autres placent leur foi dans le baptême. Oui, le Seigneur nous ordonne de prendre la Sainte Cène. Il nous ordonne de nous faire baptiser, mais il ne nous dit pas que la Sainte Cène et le baptême doivent le remplacer. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas là pour prendre la place du Seigneur. Elles ne sont pas là pour prendre la place du Seigneur. Nous devons fonder notre confiance en Jésus-Christ seul. D'autres estiment, comme ils ne volent pas, ils ne tuent pas, ils ne trompent pas leur conjoint, donc ils sont sauvés. Oui, Jésus est d'accord avec ça. Qu'il ne faille pas tuer, qu'il ne faille pas voler, qu'il ne faille pas commettre l'adultère. Mais mon salut ne dépend pas de ça. C'est la conséquence de ma nouvelle vie. Mais mon salut ne dépend pas de ça. Alors, je ne suis pas en train de vous encourager ce matin à aller voler ou tuer ou commettre l'adultère, hein, on s'entend. Notre salut ne dépend pas de ces choses. Faire dépendre son salut d'autre chose que la mort et la résurrection de Christ est un mauvais évangile. Pour l'évangile du Christ, le salut est un cadeau. Et nous savons qu'un cadeau ne s'obtient pas en contrepartie de quelque chose. Est-ce que lorsque vous faites un cadeau à votre enfant, vous lui dites « Fais d'abord ça, et si tu le fais, je te donnerai. » Ce n'est plus un cadeau, hein, si vous le faites. Ce n'est plus un cadeau. Vous êtes en train de rémunérer votre enfant. Sachez que toutes les fois que vous conditionnez un cadeau à votre enfant, vous êtes en train de rémunérer l'enfant. Vous n'êtes pas en train de lui faire un cadeau, parce qu'un cadeau, c'est gratuit. Un cadeau, c'est gratuit. Oui, mes amis, pour l'évangile du Christ, Notre salut ne dépend pas de ces choses. Personne ne doit ajouter des conditions au salut. La foi en Jésus suffit pour être sauvé et recevoir le pardon des péchés. Aucune tradition, ni aucune méthode, voire aucune stratégie ne peuvent nous obtenir le salut. Alors oui, nous pouvons mettre des stratégies en marche, mais jamais compter sur ces stratégies. La confiance est toujours en Jésus-Christ. Encore une fois, le salut est en Jésus-Christ seul et non dans notre piété ni dans notre bonne morale. Notre piété ne peut pas nous sauver. Notre bonne morale ne peut pas nous sauver. Je me rappelle encore, lorsque j'étais jeune chrétien, toutes les fois que je ratais une méditation matinale, j'étais malheureux toute la journée. C'est comme si le Seigneur n'était plus là. Mais sans le savoir, j'avais placé ma confiance dans ma méditation et non plus dans le Seigneur. Parce que je sortais d'un monde où tous les matins, je lisais l'horoscope. Et sans le savoir, l'horoscope avait été remplacé par ma méditation. Mais je n'étais plus dans l'Évangile. Et pourtant, je lisais l'Évangile. Mais ma confiance n'était plus en Jésus. Ma confiance était dans ma méditation. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus méditer, mes amis. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur ne m'aime pas parce que j'ai fait une méditation. Le Seigneur m'aime parce qu'il m'aime. Et parce que j'ai compris qu'il m'aime. Pour mon bien, il veut que je médite sa parole. Mais je ne veux pas placer ma confiance dans ma méditation. J'étais malheureux lorsque je manquais une méditation. Le matin, quand je ne priais pas, j'étais malheureux. Oui, je peux être malheureux pour autre chose. Mais je ne peux pas être malheureux parce que je perds l'assurance. Mon assurance est en Jésus-Christ seul. Aucune piété, aucune bonne morale ne peut nous sauver. Le salut est en Jésus-Christ seul. Pour terminer, le seul évangile que nous devons prêcher et écouter, c'est celui qui porte bien le nom de bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que l'évangile est la bonne nouvelle, mes amis? Pourquoi est-ce qu'elle est la bonne nouvelle? Au fond, si on nous demandait de résumer ce livre, on dirait en un seul mot, on dirait amour. Pourquoi amour? Parce que Dieu nous a aimés en nous créant. Parce que malgré notre chute, dans son amour, il a bien voulu nous racheter. Et maintenant qu'il nous a rachetés, il veut que nous vivions l'amour pour lui et l'amour pour notre prochain. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que vous et moi, nous devions être éloignés à tout jamais de la présence de Dieu, de la présence du Seigneur. Mais par amour pour lui, pour nous, Dieu s'est donné lui-même par son Fils, pour que si nous croyons que son Fils est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix pour chacun, eh bien, que nous soyons sauvés et que nous puissions être dès maintenant avec le Seigneur pour toujours. Notre Seigneur, vous savez, la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a des personnes qui interprètent ça en disant, ben, tu vois, tout le monde sera sauvé parce que tout le monde dira « Jésus est Seigneur ». Mais non, mes amis. Certains auront dit que Jésus est Seigneur avant le retour de Jésus. D'autres seront devant un fait accompli. Ils verront la seigneurie de Jésus. Et si, de leur vivant, ils n'avaient pas cru en cela, là, au retour du Seigneur, ils seront devant un fait accompli. Ah ! Ce que Jérémie me disait était vrai. Il est Seigneur. Ils vont louer la seigneurie de Jésus à contre-cœur. Parce qu'ils seront devant un fait accompli. Ils ne pourront plus nier cela. Mais ça sera trop tard. C'est pour cela qu'il est dit, tout tout genou fléchira et dira que Jésus est Seigneur. Il y en a qui le diront honteusement, mais d'autres le diront avec joie, parce que de leur vivant, ils avaient déjà reconnu la Seigneurie de Jésus. Et ceux qui reconnaîtront sa Seigneurie qu'à ce moment-là, seront séparés éternellement de la présence glorieuse de Dieu. Mes amis, l'évangile qui tient debout, c'est cet évangile que nous avons dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, il est fait état de cet évangile. En effet, pendant que l'Ancien Testament annonce le Christ, le Nouveau Testament révèle le Christ. Voilà la Bible que nous devons écouter et prêcher. Permettez que je termine avec ce passage, Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen.
Merci, frère.